Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Return to the Lost Homeland, retour au pays perdu, ce n'est pas le titre d'un film ou d'un roman de la rentrée littéraire, mais le nom donné à un circuit touristique d'un genre un peu particulier, organisé par des agences de voyage à Erevan, la capitale de l'Arménie, qui consiste à faire visiter les régions turques autrefois peuplées d'Arméniens. Et aujourd'hui, chers auditeurs, nous vous embarquons dans un de ces voyages organisés grâce à nos invités, Bernard Mangiante, bonjour.
Bonjour.
Et Clara Villermoz, bonjour.
Bonjour.
Bernard Mangiante, donc vous êtes avec nous par téléphone. Vous avez réalisé, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, un très beau road movie qui s'appelle « Le voyage en Anatolie ». Et qui sera diffusé, retenez la date, mardi prochain à 23h30 sur Arte. Donc je répète, mardi prochain à 23h30 sur Arte. Clara Villermoz, vous êtes la productrice de ce film. Vous travaillez pour les films du Balibari, c'est vous qui avez porté ce projet. Alors je ne sais pas qui veut commencer, je voulais savoir un petit peu quel avait été le déclencheur de ce film. Je rappelle quand même, Bernard Mangiante, que vous avez réalisé de nombreux films dont le thème est assez souvent la mémoire. Hein. Mm-hmm. Je peux citer Les Camps du Silence, les héros juifs communistes anti-nazis, mais également Douche, Le Khmer Rouge et le non-violent, donc à propos du procès de Douche, hein, l'extorsionnaire en chef de la prison S21. À Phnom Penh. Donc il y a une certaine continuité. Mais quel a été le déclencheur de ce film ? Peut-être Clara, vous voulez commencer ?
Oui, je pense que le déclencheur, déjà, c'est une rencontre. Moi, j'avais souhaité rencontrer Bernard Mangiante parce que j'avais vu plusieurs de ses films que j'avais beaucoup aimés. Et c'était à peu près il y a 3 ans et demi. Je lui ai fait part du fait qu'on approchait de la date du centenaire du génocide des Arméniens. Et c'était une question de productrice, un réalisateur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on pourrait explorer le génocide, la mémoire du génocide aujourd'hui? Et c'est là que la réflexion a commencé.
Oui, tout à fait. J'allais dire exactement la même chose. C'est parti d'une rencontre, et une belle rencontre avec Clara. Donc on a commencé à réfléchir. Moi, j'avais pas envie de faire un documentaire historique classique, si vous voulez, avec des archives, avec l'intervention d'historiens, de spécialistes, etc. Non pas que ce soit pas intéressant, mais bon, c'était pas mon... J'avais pas de désir particulier de cet ordre-là. J'avais plutôt envie de faire un film au présent, voilà, d'aller vraiment voir ce que c'est aujourd'hui que ces territoires, ce que c'est aujourd'hui qu'être arménien, se dire arménien, se penser arménien, étant donné que c'est une culture que je ne connais pas, que je connaissais encore moins à l'époque, que je commence à connaître un tout petit peu aujourd'hui grâce à cette expérience-là. Et voilà. Et on a entendu parler assez vite, en fait, de ces agences de voyage. Et je me suis dit que ça pouvait être une piste. Ça pouvait être une piste pour un éventuel film. Je me suis donc inscrit à l'un de ces circuits de 4 jours avec une agence d'Erevan, donc celle que nous avons ensuite engagée pour faire la logistique du film. Et j'ai donc fait ce circuit et je suis revenu avec l'idée que oui, l'idée d'un film de voyage tenait la route, comme on dit, et qu'évidemment il fallait ensuite faire un casting. C'est-à-dire on ne pouvait pas se contenter de compter sur la chance de s'inscrire dans un voyage et de tomber sur des gens formidables. Il valait quand même mieux choisir soi-même les personnages. C'est donc ce que j'ai fait au fil de recherche, repérage, rencontre. Bon, ça se fait toujours un peu par chance, un peu par recherche, un peu par... On a même passé une petite annonce dans un journal arménien de Turquie, Agos.
D'accord.
Voilà, donc on a exploré un peu toutes les pistes et donc j'ai fini par rassembler cette petite... troupe, je disais toujours, ma petite troupe de théâtre ambulant,
hein, d'accord,
qu'on a mis dans un bus.
Vous avez donc scénarisé en quelque sorte un petit peu les choses, quoi. Hein.
Oui, oui,
mais
oui,
en même
fait.
Temps, ça, alors là, je le dis pour les auditeurs, moi, je n'avais pas encore lu le dossier de presse, j'ai vu d'abord le film, parce que j'aime bien faire comme ça.
Oui,
et alors, on ne le ressent pas du tout, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'embarquer et que vous filmez, on va dire... au fur et à mesure de ce voyage, on n'imagine pas qu'il y a un casting, même si on se dit, mais voilà, ils sont formidables, tous ces personnages, en quelque sorte, du film, à chacun à leur manière. Et justement, je me demandais selon quels critères vous aviez constitué ce groupe de sept donc, personnages.
C'est très difficile à définir ça. Alors, vous avez, ça me fait très plaisir ce que vous dites, parce que même s'il y a un casting, et c'est vrai qu'il y avait un casting, mais les personnages ne se connaissaient pas les uns les autres, à part, bien sûr, Anna, Jacob, qui sont mari et femme, et Stepan, Anouche, qui sont père et fille, mais sinon, entre eux, les autres ne se connaissaient pas. Et le matin du départ, on est parti sans trop savoir ce qu'on allait filmer. C'était pas du tout... autant il y avait un casting, autant il n'y avait pas de plan de tournage avec séquences préétablies, etc. Donc c'est totalement improvisé. Alors comment j'ai choisi les personnages? Écoutez, alors vraiment, là, c'est par, on peut dire, à l'instinct, par affinité, en me disant, tiens, ça serait intéressant, un tel avec un tel. Il n'y a pas du tout de souci de représentativité sociologique ou autre. Je trouvais intéressant d'avoir des Arméniens de différentes origines.
Oui, voilà, il y a quand même des profils.
En Arménie, voilà. Qui vivent en France, qui vivent en Allemagne, qui tous se disent et sont Arméniens, mais de façon très différente. C'est ça qui m'intéressait.
Et de les mettre ensemble, voilà, pour voir aussi...
On peut dire, ça, c'est le seul critère qu'on peut écrire en noir sur blanc sur un papier. Le reste, c'est plus d'histoires de tempérament, de caractère, se dire, tiens, ça serait intéressant, Raymond avec Jeanne, qu'est-ce qu'ils auraient à se raconter s'ils se rencontraient, voilà. C'est plus des choses comme ça.
D'accord. Donc Raymond, pour les auditeurs, hein, Raymond Kevorkian, hein, qui est très connu puisque c'est un des historiens français du génocide arménien. Il avait d'ailleurs coécrit le mémorial du génocide des Arméniens avec Yves Ternon. Nous avions consacré une émission à ce mémorial que nos auditeurs peuvent réécouter. Et il était aussi l'un des trois commissaires de l'exposition au mémorial de la Shoah de l'an passé. Et à côté, donc effectivement, Jeanne Barseguian, peut-être moins connue, 35 ans, qui est conseillère des Verts et qui, voilà, arménienne par son père et qui ne connaît pas grand-chose de cette histoire. Voilà, donc. Et puis également Mélissa qui vit à Istanbul, elle, donc c'est une Arménienne de Turquie, voilà, avec une confrontation intéressante avec des Arméniens d'Arménie, Anna et son mari Agop.
Oui, puisque toutes ces identités arméniennes sont multiples, elles sont parfois même, se vivent parfois comme antinomiques, et ça m'intéressait de voir comment ça allait réagir, quoi. Voilà.
Alors, je voulais savoir ce que vous aviez découvert en faisant ce voyage. Alors là, ma question s'adresse à tous les deux. À la fois concernant, on va dire, d'abord le rapport des Turcs à ce passé, à ce génocide, et le rapport aussi des Arméniens, finalement, à l'Arménie et aussi à leur identité, voilà.
Oui, bah, Clara, peut-être tu veux.
Je pense d'abord ce qui est important aussi de spécifier par rapport à ce voyage, c'est que c'est un contexte bien bien particulier. C'est pas du tout une évidence pour les Arméniens de se rendre en Turquie. D'abord, la frontière entre l'Arménie et la Turquie est fermée. Elle est fermée depuis 1993. Et la Turquie continue à nier le génocide des Arméniens. Donc il y a quand même une certaine appréhension pour des Arméniens de revenir sur ces terres où leurs ancêtres vivaient avant 1915. Alors je sais pas, ce serait au spectateur de le dire, mais ce que nous apprend ce voyage, c'est que il y a peut-être plus de raisons, en tout cas il y a une ouverture qui est possible, il y a un dialogue qui est possible. Alors je parle pas forcément d'un dialogue arméno-turc, même si évidemment il est possible, mais en tout cas il y a vraiment une réflexion qui s'ouvre sur l'identité arménienne, et puis cette identité qui a été forgée aussi par rapport au génocide de 1915. C'est toutes ces questions-là qui sont très subtiles et qui effleurent dans ce film de manière sensible, je trouve.
Oui, tout à fait.
Nous, ce qu'on a vu peut-être au cours du voyage aussi, c'est qu'à la fois, il y a une certaine facilité à voyager. Je veux dire, c'est pas très compliqué d'aller parcourir ces régions, mais on se heurte un petit peu partout quand même à des formes parfois très banales et très subtiles de négationnisme qui sont pas forcément agressives, mais qui sont stupéfiantes.
Très ancrées.
C'est très profondément ancré, ne serait-ce que par exemple le vieux mythe de l'or arménien qu'il faudrait chercher sous les églises, etc. Bon, toutes ces choses-là. Et c'est surprenant de voir à quel point c'est encore vivace. Voilà.
Y compris dans la jeune génération, hein, puisqu'à un moment donné, vous rencontrez un jeune je crois, d'Istanbul, hein, qui continue à parler donc, d'une guerre mutuelle entre les Turcs et les Arméniens.
Oui, tout à fait.
Le discours classique du négationnisme.
Voilà, et ça, c'est une séquence qui est importante dans le film, parce que c'est très facile d'aller voir des gens qui sont violemment anti-arméniens, qui transpirent la haine et qui ont le discours, qui reproduisent le discours négationniste de l'État turc, finalement. Même si celui de l'État a un tout petit peu évolué, tout petit peu. Mais là, ce qui était étonnant, c'est que ce monsieur qu'on a rencontré, il était tout à fait sympathique, tout à fait bienveillant, tout à fait ouvert.
Puisque vous le rencontrez dans une église, en plus.
Voilà,
hein,
c'est en plus quelqu'un qui vient d'un milieu modeste et qui s'intéresse au passé, à l'histoire, y compris à l'histoire arménienne, puisqu'il visite Ani, qui était la capitale du royaume arménien de l'an 1000. Et donc, d'un point de vue strictement phénoménologique, on peut dire, voilà ce que pense un Turc, jeune, relativement éduqué, puisqu'il est quand même allé au collège, qui s'intéresse à l'histoire, qui écoute des émissions historiques, qui n'est pas, qui visiblement n'a pas de haine vis-à-vis des Arméniens, mais il est quand même complètement imbibé de cette version de l'histoire qui est finalement le socle du négationnisme. Et ça, c'est extrêmement frappant.
C'est d'une grande violence d'ailleurs pour vos personnages, hein, si je peux dire.
Oui,
on les
sûr,
voit qui tout d'un coup se décomposent, quoi, perdent la parole. Hein,
Justement, c'est d'autant plus violent que le personnage en face n'est pas antipathique.
Tout à fait. On ne s'attend pas d'ailleurs à ce qu'il dérape d'ailleurs. Hein, forcément, on pense qu'il va être bienveillant par rapport à cette histoire.
Il dérape pas du tout, c'est ce qu'il pense.
Tout à fait.
Et c'est ça qui est impressionnant, bien sûr.
Alors en même temps, ce que vous montrez dans le film, ce qui est intéressant, c'est la persistance d'une mémoire populaire, cette fois, locale, on va dire. Alors je pense à qui, finalement, fait droit à l'existence des Arméniens. Je pense notamment à ce Kurde là, que vous rencontrez. Qui a été investi par son père de la fonction de gardien de l'église en ruine. C'est en zone kurde, je ne sais plus exactement où.
Oui, c'est à côté de Van, donc en plein, plein cœur de l'ex-Arménie.
Grande ville kurde d'Anatolie.
Voilà, qui est aujourd'hui une ville kurde à quasiment 100%. Donc l'attitude des Kurdes est assez ambivalente, parce qu'à la fois on sait qu'ils ont très très vigoureusement prêté main forte au génocide en 1915, donc ils ont été parmi les plus cruels pillards, voleurs, assassins, etc. Ils ont aussi recueilli parfois, souvent même, des enfants, des jeunes, surtout des jeunes filles, soit pour les marier de force, etc., et d'où après les conversions forcées, qui donnent aujourd'hui ce qu'on appelle des Arméniens cachés de Turquie, bon... Mais du fait de ce qu'ils ont subi de la part des Turcs par la suite, ils sont peut-être plus ouverts que les Turcs proprement dit vis-à-vis de l'histoire arménienne. Mais c'est extrêmement ambivalent. Et quand on dit qu'ils sont contents de voir revenir les Arméniens, je pense qu'il y a à la fois des raisons économiques, parce qu'il y a une nouvelle forme de tourisme finalement. Il y a pas mal d'Arméniens qui circulent dans ces régions et qui apportent des devises, quoi. Et d'autre part, je pense que c'est aussi ambigu, parce qu'ils sont contents de les voir revenir tant qu'il n'y a pas de revendications sur des maisons, sur des biens, sur des choses comme ça. Là, je pense que l'attitude pourrait changer assez vite.
Sachant qu'ils sont eux-mêmes en conflit, donc
voilà, et que souvent ils ont récupéré des biens. Voilà, ils ont récupéré des biens arméniens, des maisons, des champs, etc. Donc je pense que s'il y avait un retour, ça ne se passerait pas comme ça. Donc on est en pleine ambiguïté, mais c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est toujours... C'est toujours là qu'il faut chercher les histoires.
Après, c'est sûr que les initiatives d'ouverture vis-à-vis de la reconnaissance et de l'accueil des Arméniens en Turquie aujourd'hui, elles viennent principalement de la communauté kurde.
Oui, absolument.
Donc, à l'est de la Turquie.
Très nettement à Diyarbakir, par exemple, qui est la grande capitale kurde de l'Est d'Anatolie, où il y a une politique ouvertement pro-arménienne, avec incitation au retour, etc. Mais on ne sait jamais trop sur quel calcul politique ça repose et dans quelle mesure ça sert un agenda kurde, proprement dit. C'est... D'ailleurs, y compris les Arméniens de Diyarbakir eux-mêmes sont parfois très sceptiques vis-à-vis de la politique philo-arménienne du maire kurde, etc. Donc c'est très compliqué, cette histoire-là.
Alors, ces voyageurs-là que l'on suit pendant une heure sont pas des touristes comme les autres. Ils sont en quelque sorte des chercheurs de traces. Et leur démarche, votre démarche, là, s'apparente à celle d'archéologues qui grattent, même littéralement, la terre pour exhumer des vestiges. Justement, ce vieux kurde leur montre une pierre, c'est ça qui sert de... qui a été décelé, qui était avant dans l'église, et puis qui a été utilisé pour faire un escalier, et ils se mettent à gratter la terre par des strates de poussière et de terre. C'était aussi un parti pris de montrer finalement qu'il faut continuer à prouver l'existence de génocide, quoi. Ils ont besoin de preuves.
Je crois que même si on ne le cherche pas, on n'a pas tellement le choix, parce qu'à chaque coin de rue, les traces du passé sont là. Et on n'a pas forcément besoin de se faire, justement, archéologue avec beaucoup de patience et de recherche. Enfin, ça vient tout seul, d'une certaine façon. Et là, dans ce village... c'est encore, c'est une séquence qui est un peu presque cliché, je dirais, parce que cette histoire des pierres d'église décellées qui ont été réutilisées dans les murs, on trouve ça un petit peu partout, ça a été écrit dans des tas de bouquins, on voit ça dans plusieurs films, donc c'est pas quelque chose que je serais allé chercher volontairement, si vous voulez, parce
D'accord.
que et ça nous est un peu tombé dessus dans ce village-là, qui est souvent visité par des Arméniens à cause de ces ruines qui sont assez célèbres. Puisque ce sont les ruines d'églises et d'un complexe de monastères qui était très important. Et donc, ce qui m'intéresse là, c'est moins le fait que des pierres soient réutilisées, parce que ça, bon, comme je vous disais, on a vu un peu partout. C'est la façon dont cet homme, ce vieux monsieur kurde, enfin, qui n'est pas si vieux que ça, d'ailleurs, il est un homme qui a 60 ans à peu près, donc qui est né bien après, évidemment, bien après toutes ces histoires. C'est la façon dont c'est amené. Mm-hmm. Parce que là encore, on est en pleine ambiguïté. C'est-à-dire, est-ce que... Pour résumer ça avec une plaisanterie, mon ingénieur du son, qu'on ait tourné la scène, dit « Bon, maintenant, il n'a plus qu'à remettre la terre pour les prochains touristes.
» D'accord.
En gros, c'était ça. On était c'est très ambigu, parce qu'on se dit, à la fois, il sait qu'il y a une pierre avec une croix, il y a de la terre et de l'herbe dessus qui, visiblement, n'ont pas été mises la veille, contrairement à ce que la plaisanterie pourrait laisser croire. Donc, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Quel est le jeu, là ? Quelle est la relation avec ces Arméniens qui viennent là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme qui sait que cette pierre est là et qui la montre pas forcément à tout le monde non plus. Donc c'est très 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 compliqué, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit ressentir, qu'est-ce qu'on doit penser quand on est là. Et moi c'est ça qui m'intéresse, j'aime bien être perdu, j'aime bien ne plus trop savoir quoi penser et ne pas repartir avec des opinions définitives et bien tranchées, quoi. Et surtout ne pas repartir avec l'idée, comme ça a été écrit dans un livre que je ne citerai pas, que ce monsieur kurde-là serait un Arménien caché, parce que moi je l'avais lu, du coup ça m'intriguait, et on a beaucoup beaucoup poussé la question avec Mélissa, Jeanne et Raymond, et pour en conclure que non, c'est pas du tout un Arménien caché, c'est juste un Kurde, et qui a un peu son gagne-pain là avec les touristes arméniens. Donc je vous dis, on nage en pleine ambiguïté, et moi ça me passionne.
Voilà. D'accord. Ce que votre film montre aussi, et peut-être Clara aussi peut en dire un mot, c'est que l'enjeu de reconnaissance, il est toujours aussi sensible 100 ans après. C'est toujours aussi important pour les voyageurs.
Oui, je pense que c'est pas uniquement une question politique. Je pense que c'est une question très intime.
Très intime.
Stéphane le dit très bien. À sa façon, à un moment dans le film, il dit... il dit, moi, j'ai pas connu le désert, enfin, sous-entendu le désert de Syrie où les Arméniens à l'époque avaient été déportés, mais tant qu'il n'y aura pas eu reconnaissance du génocide, je suis dans le désert. Enfin, voilà. Et je crois qu'on ne peut pas le dire de façon plus juste, c'est quelque chose de très intime pour beaucoup d'Arméniens, je pense. cette reconnaissance est à la fois quelque chose de symbolique, quelque chose de moral. Ça va bien au-delà des tractations politiques entre la Turquie, l'Union européenne, etc., qui sont aussi importantes, bien sûr, mais je crois que c'est un seuil à franchir sans lequel il ne se passera rien, quoi, ça ne bougera pas, cette question.
Oui, ce qui est déchirant aussi, je trouve, et ce qu'on sent très bien dans le film, c'est cette destruction aussi du patrimoine culturel arménien. C'est-à-dire, et ça, Raymond Kevorkian le dit très bien, Raymond Kevorkian qui est historien, c'est aussi un des piliers du négationnisme, c'est-à-dire qu'on maîtrise le passé de celui qu'on a anéanti. Donc, et cette disparition des traces et ces monuments en ruine, etc., c'est aussi le symbole du négationnisme. Ani, qui était la capitale du royaume arménien de l'an 1000, il n'y a rien qui dit que c'était un royaume arménien. Il y a plusieurs drapeaux turcs qui flottent et on dit que c'était des rois ottomans. Enfin, il y a une falsification de l'histoire qui est très douloureuse pour nos voyageurs.
Oui, c'est constant. Enfin, cette falsification ou cette...
Des panneaux d'affichage également.
Voilà. Oui, on trouve ça absolument partout. Et je pense qu'à chaque fois, c'est une épine dans le pied de nos voyageurs. Quoi. C'est terrible de voir ça à chaque détour du chemin. On voit la négation de cette histoire, oui, bien sûr. Le mot arménien n'est jamais écrit, jamais prononcé. Enfin, c'est d'une grande violence. Oui.
Et en même temps, les traces, comme vous le disiez, sont là, sont partout, ne serait-ce que le mont Ararat autour duquel vous tournez, en quelque sorte, alors qui surgit là de façon très belle, comme un sorte de totem aussi, de tutelle aussi un peu.
Oui, même si Raymond
oui, démystifie un peu
sur le mythe du Mont Ararat qui a été pas mal fabriqué effectivement au XIXe siècle, il n'en reste pas moins que c'est un symbole fort pour beaucoup de monde, et je crois que c'est pas un hasard si les Turcs ont fait du forcing pour que ça reste en territoire, enfin que ça soit en territoire.
Exactement, exactement.
Oui, c'est-à-dire qu'on... comme pour Annie, où ils ont fait un dernier coup de force aussi pour le garder. Oui, il y a une volonté délibérée de s'accaparer toutes les formes du passé, que ce soit les monuments, que ce soit ça, pour mieux les annihiler par la suite.
Alors, il y a un autre point intéressant, ça sera notre dernier point, c'est aussi sur l'identité arménienne, hein, entre finalement les Arméniens d'Arménie, les Arméniens de Turquie, les Arméniens de la diaspora. Ils n'ont pas le même rapport, finalement, à ce qu'on pourrait appeler l'Arménie avec un... imaginaire, enfin. Ça, c'était aussi quelque chose que vous vouliez montrer.
Oui, ça m'intéressait beaucoup de voir comment ils allaient entrer en relation les uns avec les autres et de voir, cette confrontation des imaginaires et des conceptions de l'identité. Ça, voilà, de voir qu'est-ce que, par exemple, ça tourne souvent autour de la langue, autour de la religion, autour de la culture, dire qui peut se dire arménien, qui n'a pas le droit aux yeux de certains arméniens de se dire arménien, etc. Voilà, on voit un petit peu là, c'est quelques frictions entre Mélissa et Anna et Jacob qui eux vivent à Yerevan, qui ont
tout à fait, c'est très intéressant.
Anna a une conception au départ assez rigide de l'identité arménienne, et on voit qu'elle elle est tout le monde est un peu déstabilisé là à ce moment-là. Mélissa sait pas trop sur quel pied danser non plus parce qu'elle craint.
Elle est turque, donc.
Elle s'assume comme citoyenne turque d'origine arménienne. Elle veut renoncer à aucune des deux parties de son identité. Et donc pour elle, c'était un risque aussi de se dire voilà comment je vais être perçu par les Arméniens d'Arménie qui souvent se pensent comme les seuls vrais quoi, seuls vrais Arméniens.
Tout à fait. Voilà. Merci Bernard Mangiante et merci Clara Vulliermoz. Je rappelle que votre film Le Voyage en Anatolie donc sera diffusé, ne le manquez pas, mardi prochain à 23h30 sur Arte. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.